Il était 9 heures du soir. Darnley resta seul, ferma avec soin ses portes en dedans et se coucha, quitte à se lever pour aller ouvrir au domestique qui devait venir passer la nuit près de lui. Il était à peine au lit que le même bruit qu'il avait entendu la veille se renouvela. Cette fois, Darnley écoutait avec toute l'attention de la crainte et bientôt il n'eut plus de doute que plusieurs hommes ne marchassent au-dessous de lui. Appeler était inutile, sortir était dangereux, attendre était le seul parti qui restât au roi. Il s'assura de nouveau que ses portes étaient bien fermées, mit son épée sous le chevet de son lit, éteignit sa lampe, de peur que sa lueur ne le dénonçât, et attendit en silence l'arrivée de son domestique. Mais les heures s'écoulèrent et le domestique ne vint pas. À 1 heure du matin, Boswell, après avoir causé assez longtemps avec la reine en présence du capitaine des gardes, était rentré chez lui pour changer de costume. Quelques minutes après, il en sortit, enveloppé d'un large manteau de housard allemand, traversa le corps de garde et se fit ouvrir la porte du château. Une fois dehors, il s'achemina en toute hâte vers Kirchfield, où il pénétra par l'ouverture de la muraille. À peine eut-il fait quelques pas dans le jardin qu'il y rencontra Jacques Balfour, gouverneur du château. « Eh bien, lui dit-il, où en sommes-nous ? » « Tout est prêt, répondit Balfour, et nous vous attendions pour mettre le feu à la mèche. »« C'est bien, reprit Boswell, mais auparavant, je veux m'assurer qu'il est dans sa chambre. » À ces mots, Boswell ouvrit la porte du pavillon avec une fausse clé, et, ayant monté l'escalier à tâtons, il alla écouter à la porte de Darnley. N'entendant plus de bruit, il avait fini par s'endormir, mais d'un sommeil dont sa respiration saccadée indiquait l'agitation. Peu importait à Boswell de quel sommeil il dormait, pourvu qu'il fût bien réellement dans sa chambre. Il redescendit donc en silence comme il était monté, et prenant une lanterne des mains d'un des conjurés, il entra lui-même dans la salle basse pour voir si tout était bien disposé. Cette salle était pleine de barils de poudre, et une mèche préparée n'attendait plus qu'une étincelle pour communiquer sa flamme au volcan. Boswell se retira alors au fond du jardin avec Balfour, David, Chambers et 3 ou 4 autres, laissant un homme pour mettre le feu à la mèche. Au bout d'un instant, cet homme vint les joindre. Il y eut alors quelques minutes d'anxiété, pendant lesquelles les 5 hommes se regardèrent en silence et comme effrayés d'eux-mêmes. Puis, voyant que rien n'éclatait, Boswell se retourna avec impatience du côté de l'artificier, lui reprochant d'avoir, par peur sans doute, mal rempli son office. Celui-ci assura son maître qu'il était certain que tout était en bon état, et comme Boswell, impatient, voulait rentrer lui-même dans la maison pour s'en assurer, il offrit de retourner voir où cela en était. En effet, il revint jusqu'au pavillon, et passant sa tête par une espèce de soupirail, il aperçut la mèche qui brûlait encore. Quelques secondes après, Boswell le vit revenir en courant et en faisant signe que tout allait bien. Au même moment, une détonation terrible se fit entendre, le pavillon volant en débris, la ville et le golfe s'illuminèrent d'une clarté qui surpassait la lumière du jour le plus vif. Puis tout rentra dans la nuit et le silence ne fut plus interrompu que par la chute des pierres et des solives qui retombaient aussi pressées que la grêle dans un ouragan. Le lendemain, on retrouva le corps du roi dans un jardin du voisinage. Il avait été garanti de l'action du feu par les matelas sur lesquels il était couché, et comme sans doute dans sa terreur il s'était seulement jeté sur son lit enveloppé dans sa robe de chambre et ses pantoufles aux pieds, et qu'il fut retrouvé ainsi, moins ses pantoufles jetées à quelques pas de lui, on crut qu'il avait été étranglé d'abord, puis porté là. Mais la version la plus probable fut que les meurtriers s'en étaient tout simplement rapportés à la poudre, auxiliaire assez puissant par lui-même pour qu'on n'ait pas la crainte qu'il manque son effet. La reine était-elle ou non complice ? C'est ce que personne n'a jamais su, qu'elle, Boswell et Dieu. Mais, complice ou non, sa conduite, imprudente cette fois comme toujours, donna à l'accusation que ses ennemis portèrent contre elle, sinon la consistance, du moins l'aspect de la vérité. À peine eut-elle appris cette nouvelle qu'elle ordonna que le corps fût apporté devant elle et que, l'ayant fait étendre sur un banc, elle l'examina quelques instants avec plus de curiosité que de douleur. Puis le cadavre, embaumé, fut déposé le même soir et sans pompe à côté de celui de Rizzio. Le cérémonial d'Écosse prescrivait aux veuves des rois de se retirer pendant 40 jours dans une chambre entièrement fermée à la lumière du ciel. Le 12e jour, Marie fit ouvrir ses fenêtres et le 15e partit avec Bothwell pour Seyton, maison de campagne située à 2 lieues de la capitale où l'ambassadeur de France, Ducrot, alla la trouver et lui fit des remontrances qui la déterminèrent à revenir à Édimbourg. Mais, au lieu des acclamations qui accueillaient ordinairement sa venue, elle y fut reçue par un silence de glace et une seule femme dans la foule s'écria « Dieu la traite comme elle le mérite !» Le nom des meurtriers n'était point un secret pour le peuple. Bothwell ayant porté à un tailleur un magnifique habit trop grand pour lui en le chargeant de le refaire à sa taille, l'ouvrier le reconnut pour avoir appartenu au roi. « C'est juste, dit-il, l'habitude est que le bourreau hérite du patient. » Cependant, le comte de Lennox, soutenu par les murmures du peuple, demandait hautement justice de la mort de son fils et se portait comme accusateur contre ses meurtriers. La reine fut donc forcée, pour apaiser le cri paternel et le ressentiment public, d'ordonner au comte d'Argyle, grand justicier du royaume, de faire des informations. Le même jour où cet ordre fut donné, une proclamation fut affichée dans les rues d'Édimbourg, dans laquelle la reine promettait 2000 livres sterling à quiconque donnerait connaissance des meurtriers du roi. Le lendemain, partout où ce monitoire avait été affiché, on trouva un autre placard ainsi conçu. Comme il a été publié que ceux qui feraient connaître les meurtriers du roi auraient 2000 livres sterling, moi qui ai fait de bonnes perquisitions, affirme que les auteurs du meurtre sont le comte de Bothwell, Jacques Balfour, le curé de Fleet, David, Chambers, Blackmester, Jacques Spen et la reine elle-même. Ce placard fut déchiré, mais comme cela arrive ordinairement, il avait déjà été lu par toute la population. Le comte de Lennox accusait Bothwell, et la voix publique qui l'accusait comme lui le secondait avec une telle violence que Marie fut contrainte de le laisser mettre en jugement. Seulement, toutes les mesures furent prises pour ôter à l'accusateur le moyen de convaincre l'accusé. Le 28 mars, le comte de Lennox reçut avis que le 12 avril était fixé pour le jugement. C'était 14 jours qu'on lui accordait pour assembler des preuves mortelles contre l'homme le plus puissant de toute l'Écosse. Aussi, le comte de Lennox, jugeant que ce procès n'était qu'une dérision, ne comparut-il point. Bothwell, au contraire, se rendit au tribunal, accompagné de 5 000 de ses partisans et de 200 fusiliers d'élite qui gardèrent les portes aussitôt qu'il y fut entré, de sorte qu'il paraissait bien plutôt un roi qui va violer les lois qu'un accusé qui vient s'y soumettre. Aussi arriva-t-il ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le jury acquitta Bothwell du crime dont tout le monde, et les juges eux-mêmes, le savaient coupable. Le jour du jugement, Bothwell fit afficher ce cartel. « Quoique je sois suffisamment lavé du meurtre du roi, dont on m'a faussement accusé, cependant, pour mieux justifier mon innocence, je suis prêt à me battre contre quiconque osera avancer que j'ai tué le roi. » Le lendemain, on trouva afficher cette réponse. « J'accepte le défi, pourvu que tu choisisses un lieu neutre. » Cependant, ce jugement était à peine rendu que des bruits de mariage se répandirent entre la reine et le comte de Bothwell. Quelque étrange et quelque insensé que fût ce mariage, les relations des deux amants étaient si connues que personne ne douta que ce ne fût la vérité. Mais comme tout était soumis à Bothwell, soit par crainte, soit par ambition, deux hommes seulement osèrent protester à l'avance contre cette union. L'un fut Lord Eris et l'autre Jacques Melville. Marie était à Stirling lorsque Lord Eris, profitant d'une absence momentanée de Bothwell, vint se jeter à ses pieds, la suppliant de ne point se perdre d'honneur en épousant le meurtrier de son mari, ce qui ne manquerait pas de convaincre ceux qui en doutaient encore qu'elle était sa complice. Mais la reine, au lieu de remercier Eris de ce dévouement, parut fort étonnée de sa hardiesse et, lui faisant dédaigneusement signe de se relever, lui répondit froidement que son cœur ne lui disait rien pour le comte de Bothwell et que si jamais elle se remariait, ce qui n'était point probable, elle n'oublierait ni ce qu'elle devait à son peuple, ni ce qu'elle se devait à elle-même. Melville ne se laissa point décourager par ce précédent et feignit d'avoir reçu une lettre qu'un de ses amis, nommé Thomas Bishop, lui écrivait d'Angleterre. Il montra cette lettre à la reine. Mais Marie, aux premières lignes, reconnut le style et surtout l'amitié de son ambassadeur et, donnant la lettre au comte de Lidington, qui était présent, « Voilà, lui dit-elle, une lettre fort singulière. Lisez-la, c'est un tour de la façon de Melville. » Lidington jeta les yeux sur la lettre, mais parvenu à la moitié à peine, il prit Melville par la main et l'entraîna dans l'embrasure d'une fenêtre. « Mon cher Melville, lui dit-il, vous étiez fou, certainement, quand tout à l'heure vous avez communiqué cette lettre à la reine, car dès que le comte de Bothwell en aura connaissance, et ce ne sera pas long, il vous fera assassiner. Vous avez agi en honnête homme, c'est vrai, mais à la cour, mieux vaut agir en homme habile. Retirez-vous donc au plus vite, c'est moi qui vous le dis. » Melville ne se fit point répéter cet avis et s'absenta 8 jours. Lidington ne s'était pas trompé. À peine Bothwell était-il de retour près de la reine qu'il sut tout ce qui s'était passé. Il éclata alors en imprécation contre Melville et le fit chercher partout. Mais il ne put le trouver. Ce commencement d'opposition, si faible qu'il fût, n'en inquiéta pas moins Bothwell, qui, sûr de l'amour de Marie, résolut de brusquer les choses. En conséquence, comme la reine revenait de Stirling à Édimbourg, quelques jours après les scènes que nous venons de raconter, Bothwell parut tout à coup au pont de Cramond avec 1000 cavaliers et, ayant fait désarmer le comte de Huxley, Lidington et Melville, qui étaient revenus près de sa maîtresse, il saisit le cheval de la reine par la bride et, avec une violence apparente, il força Marie de rebrousser chemin et de le suivre à Dunbar. Ce que la reine fit sans aucune résistance, chose étrange de la part d'une personne du caractère de Marie. Le lendemain, les comtes de Huntley, Lidington, Melville et les gens de leur suite furent remis en liberté. Puis, 10 jours après, Bothwell et la reine, parfaitement réconciliés, revinrent ensemble à Édimbourg. Le surlendemain de ce retour, Bothwell donna dans une taverne un grand dîner aux nobles, ses partisans. Après le repas, sur la table même où il avait eu lieu et au milieu des verres à moitié vides et des bouteilles renversées, Lindsay, Ruthwen, Morton, Maitland et 12 ou 15 autres seigneurs signèrent un acte qui déclarait non seulement que, dans leur âme et conscience, Bothwell était innocent, mais encore qu'il le désignait à la reine comme l'époux qui lui convenait. Cet acte était terminé par cette déclaration assez étrange. Après tout, la reine ne peut faire autrement, puisque le comte l'a enlevée et a couché avec elle. Cependant, 2 choses s'opposaient encore à ce mariage. La première, c'est que Bothwell était déjà marié 3 fois et que ses 3 femmes étaient vivantes. La seconde était qu'ayant enlevé la reine, cette violence pouvait faire regarder comme nulle l'alliance qu'elle contracterait avec lui. On s'occupa d'abord de la première de ces difficultés comme la plus difficile à résoudre. Les 2 premières femmes de Bothwell étaient de naissance obscure, par conséquent on dédaigna de s'inquiéter d'elles. Mais il n'en était point ainsi de la 3e fille du comte Huntley, le même qui avait été écrasé sous les pieds des chevaux, et sœur de Gordon qui avait eu la tête tranchée. Heureusement pour Bothwell que ses déportements passés faisaient désirer le divorce à sa femme avec autant d'ardeur qu'il le poursuivait lui-même. On n'eut donc point de peine à la décider à porter une plainte en adultère contre son mari. Bothwell avoua qu'il avait eu un commerce criminel avec une parente de sa femme et l'archevêque de Saint-André, le même qui était venu se loger dans cette maison solitaire de Kirchfield pour assister à la mort de Darnley, prononça la sentence de dissolution. Le procès fut intenté, poursuivi et jugé en 10 jours. Quant au second obstacle, relatif à la violence employée vis-à-vis de la reine, Marie se chargea de le lever elle-même, car, s'étant transportée au tribunal, elle déclara que non seulement elle pardonnait à Bothwell la conduite qu'il avait tenue à son égard, mais encore que, le reconnaissant pour un bon et fidèle sujet, elle comptait l'élever incessamment à de nouveaux honneurs. En effet, quelques jours après, elle le créa duc d'Orkney, et le 15 du même mois, c'est-à-dire 4 mois à peine après la mort de Darnley, avec une légèreté qui tenait de la folie, Marie, qui avait sollicité une dispense pour épouser un prince catholique, son parent au troisième degré, épousa Bothwell, parvenu protestant, qui, outre son divorce, était encore bigame et qui se trouva ainsi avoir quatre femmes vivantes, y compris la reine. Les noces furent tristes et, comme il convenait, à une fête donnée sous de si sanglants auspices. Morton, Maitland et quelques bas-flatteurs de Bothwell y assistèrent seuls. L'ambassadeur de France, quoiqu'il fût une créature de la maison de Guise dont elle était la reine, refusa de s'y trouver. L'illusion de Marie fut courte. À peine au pouvoir de Bothwell, elle vit quel maître elle s'était donné. Grossier, brutal et violent, il semblait choisi par la Providence pour être le vengeur des fautes dont il avait été l'instigateur ou le complice. Bientôt, ses emportements arrivèrent à un tel point qu'un jour, ne pouvant plus les supporter, Marie s'empara du poignard d'Areskine qui était présent avec Melville à une de ses scènes et voulut s'en frapper, disant qu'elle aimait mieux mourir que de continuer de vivre malheureuse comme elle était. Et cependant, chose inexplicable, malgré ses duretés sans cesse renouvelées, Marie, oubliant qu'elle était femme et reine, revenait toujours la première à Bothwell, tendre et soumise comme un enfant. Néanmoins, ces scènes publiques donnèrent un prétexte aux nobles qui ne cherchaient qu'une occasion d'éclater. Le comte de Mar, gouverneur du jeune prince, Argyle, Athol, Glencairn, Lindley, Boyd et jusqu'à Morton et Maitland eux-mêmes, ses complices éternels de Bothwell, se soulevèrent pour venger, dirent-ils, la mort du roi et pour tirer le fils des mains qui avaient fait mourir le père et retenaient la mère captive. Quant à Murray, il s'était complètement effacé pendant tous les derniers événements, étant dans le comté de Fife lorsque le roi fut assassiné, et 3 jours avant le procès de Bothwell, ayant sollicité et obtenu de sa sœur la permission d'aller faire un voyage sur le continent. L'insurrection avait eu lieu d'une manière si prompte et si instantanée que les seigneurs confédérés, dont le plan était de s'emparer par surprise de Marie et de Bothwell, pensèrent y réussir du premier coup. Le roi et la reine étaient à table chez Lord Borthwick, qui leur donnait une fête, lorsque tout à coup, on annonça qu'une troupe considérable d'hommes armés entourait le château. Les deux époux se doutèrent que c'était à eux que l'on en voulait, et, comme ils n'avaient aucun moyen de résistance, Bothwell prit les habits d'un écuyer, Marie ceux d'un page, et tous deux, montant aussitôt à cheval, s'échappèrent par une porte, tandis que déjà les confédérés entraient par l'autre. Les fugitifs se retirèrent à Dunbar. Là, ils convoquèrent tous les amis de Bothwell et leur firent signer une espèce de confédération par laquelle ils s'engageaient à défendre la reine et son mari. Sur ces entrefaites, Murray arriva de France et Bothwell lui présenta, comme aux autres, l'acte d'association. Mais Murray refusa d'y apposer sa signature, disant que c'était lui faire insulte que de croire qu'il avait besoin d'être tenu par un engagement écrit lorsqu'il s'agissait de défendre sa sœur et la reine. Ce refus ayant amené une altercation entre lui et Bothwell, Murray, fidèle à son système de neutralité, se retira dans son comté et laissa les affaires suivre sans lui la pente fatale qu'elles avaient prise. Cependant, les confédérés, après avoir manqué leur coup à Borthwick, ne se sentant point assez forts pour aller attaquer Bothwell à Dunbar, marchèrent sur Édimbourg, où ils avaient des intelligences avec un homme dont Bothwell se croyait sûr. Cet homme était Jacques Balfour, commandant de la citadelle, le même qui avait présidé à la confection de la mine qui avait fait sauter Darnley et que Bothwell avait rencontré en entrant dans le jardin de Kirchfield. Non seulement Balfour livra la citadelle d'Édimbourg entre les mains des confédérés, mais encore il remit un petit coffret d'argent dont le chiffre, qui était un F couronné, indiquait qu'il venait de François II. Et en effet, c'était un cadeau de son premier mari dont la reine avait fait don à Bothwell. Balfour assura que ce coffret renfermait des papiers précieux qui, dans les circonstances présentes, pouvaient être aux ennemis de Marie d'une grande utilité. Les lords confédérés l'ouvrirent et y trouvèrent les 3 lettres, vraies ou fausses, que nous avons citées, le contrat de mariage des 2 époux et 12 pièces de verre de la main de la reine. Comme l'avait dit Balfour, c'était là, pour les ennemis de Marie, une riche et précieuse trouvaille et qui valait mieux qu'une victoire. Car une victoire ne leur livrait que la vie de la reine, tandis que la trahison de Balfour leur livrait son honneur. Pendant ce temps, Boswell avait fait des levées et se croyait en état de tenir la campagne. En conséquence, il se mit en route avec son armée, sans même attendre les Hamilton, qui réunissaient leurs vassaux, et le 15 juin 1567, les deux parties opposées se trouvèrent en présence. Marie, qui voulait tâcher d'éviter les fusions de sang, envoya aussitôt au Lord confédéré, l'ambassadeur de France, pour les exhorter à mettre bas les armes. Mais ceux-ci répondirent que la reine se trompait en les prenant pour des rebelles, que ce n'était point contre elle qu'ils marchaient, mais contre Boswell. Alors les amis du roi firent ce qu'ils purent pour rompre les négociations et engager le combat. Il était déjà trop tard, les soldats savaient qu'ils défendaient la cause d'un homme et qu'ils allaient se battre pour le caprice d'une femme et non pour le bien du pays. Ils crièrent donc hautement que puisque c'était à Boswell seul que l'on en voulait, c'était à Boswell de défendre sa cause. Et celui-ci, vaniteux et rodomont comme toujours, fit publier alors qu'il était prêt à prouver son innocence, les armes à la main, contre quiconque oserait soutenir qu'il était coupable. À l'instant même, tout ce qu'il y avait de noblesse dans le camp opposé accepta le cartel. Et comme on cédait la place aux plus vaillants, Kirkaldy de Lagrange, Murray de Tillibardine et Lord Lindsay de Bure le défièrent successivement. Mais soit que le courage l'abandonnât, soit qu'au moment du danger il ne crût pas lui-même à la justice de sa cause, il chercha pour éluder le combat des prétextes si étranges que la reine elle-même en eut honte et que ses amis les plus dévoués en murmurèrent. Alors Marie, voyant la disposition fatale où étaient les esprits, résolut de ne point tenter les risques d'une bataille. Elle envoya donc un héros à Kirkaldy de Lagrange qui commandait un poste avancé, et comme celui-ci s'avançait sans défiance pour s'entretenir avec la reine, Boswell, furieux de sa propre lâcheté, donna ordre à un soldat de tirer sur lui. Mais cette fois, Marie elle-même s'interposa, défendant sous peine de mort qu'il lui fût fait la moindre violence. En même temps, comme l'ordre imprudent donné par Boswell s'était répandu dans l'armée, de tels murmures éclatèrent qu'il vit bien que sa cause était à jamais perdue. C'est ce que pensa aussi la reine, car le résultat de sa conférence avec Lord Kidalki fut qu'elle abandonnerait la cause de Boswell et passerait dans le camp des confédérés, à condition qu'il mettrait bas les armes devant elle et qu'il la ramènerait en reine à Édimbourg. De Lagrange alla porter les conditions aux nobles et promit de revenir le lendemain avec une réponse satisfaisante. Mais, au moment de quitter Boswell, Marie fut reprise pour lui de cet amour fatal qu'elle ne put jamais surmonter, et se sentit atteinte d'une telle faiblesse que, pleurant à chaudes larmes et aux yeux de tous, elle voulut faire dire à Lagrange qu'elle rompait toute négociation. Mais comme Boswell avait compris qu'il n'était plus en sûreté dans le camp, ce fut lui-même qui insista pour que les choses restassent dans l'état où elles étaient, et laissant Marie éplorer, il monta à cheval et s'éloigna à Franc-Étrier, il ne s'arrêta qu'à Dunbar. Le lendemain, à l'heure dite, les trompettes qui précédaient Lord Kirkaldy de Lagrange annoncèrent son arrivée. Marie monta aussitôt à cheval et alla au-devant de lui. Puis, comme il avait mis pied à terre pour la saluer, « My Lord, dit-elle, je me rends à vous aux conditions que vous m'avez proposées de la part des nobles, et voici ma main en signe de parfaite confiance. » Alors Kirkaldy mit un genou en terre, baisa respectueusement la main de la reine, puis, se relevant, il prit son cheval par la bride et le conduisit vers le camp des confédérés. Tout ce qu'il y avait de seigneurie et de noblesse dans l'armée la reçut avec des marques de respect telles qu'elle n'en pouvait demander de plus grandes. Mais il n'en fut pas de même des soldats et des communes gens. À peine la reine fut-elle arrivée à la seconde ligne qui était formée par eux qu'il s'éleva de grands murmures et que plusieurs voix crièrent « Au bûcher, l'adultère ! Au bûcher, la parricide !» Cependant, Marie supporta assez stoïquement ces outrages. Mais elle était réservée à une épreuve plus terrible encore. Tout à coup, elle vit se dresser devant elle une bannière sur laquelle était peint d'un côté le roi mort et étendu dans le fatal jardin, et de l'autre le jeune prince à genoux, les mains jointes et les yeux au ciel, avec cette devise « Ô Seigneur, juge et venge ma cause !» Marie arrêta son cheval tout court à cette vue et voulut retourner en arrière. Mais à peine eut-elle fait quelques pas que la bannière accusatrice lui ferma de nouveau le passage. Partout où elle alla, elle rencontra cette fatale apparition. Sans cesse, pendant 2 heures, elle eut devant les yeux et le cadavre du roi demandant vengeance et le jeune prince, son fils, priant Dieu de punir les meurtriers. Enfin, elle ne put supporter plus longtemps cette vue et, jetant un cri, elle se renversa en arrière, ayant complètement perdu connaissance et prête à tomber si on ne l'avait retenue. Le soir, elle entra à Édimbourg, toujours précédée de cette cruelle bannière. Elle avait déjà plus l'air d'une prisonnière que d'une reine. Car, n'ayant pas eu un instant de la journée à donner à sa toilette, ses cheveux retombaient épars sur ses épaules, son visage était pâle et portait la trace de larmes, enfin ses vêtements étaient couverts de poussière et de boue. Là, et à mesure qu'elle avançait dans la ville, les huées de la populace et les malédictions de la multitude la poursuivirent. Enfin, à demi-morte de fatigue, brisée de douleur, courbée de honte, elle arriva dans la maison du Lord Prévôt. Mais à peine y fut-elle que toute la population d'Édimbourg se pressa sur la place avec des cris qui, de temps en temps, prenaient un caractère de menace effrayant. Plusieurs fois alors, Marie voulut s'approcher de la fenêtre, espérant que son aspect, dont elle avait si souvent éprouvé l'influence, désarmerait toute cette multitude. Mais à chaque fois, elle vit comme un rideau sanglant se déployer entre elle et le peuple cette bannière, traduction terrible des sentiments de la multitude. Cependant, toute cette haine s'adressait encore plutôt à Bothwell qu'à elle. C'était Bothwell que l'on poursuivait dans la veuve de Darnley. Les malédictions étaient pour Bothwell. Bothwell était l'adultère, Bothwell était le meurtrier, Bothwell était le lâche, tandis que Marie était la femme faible et fascinée qui, le soir même, donna une nouvelle preuve de sa folie. En effet, aussitôt que la nuit, en s'avançant, eut dispersé cette multitude et qu'un peu de silence fut rétabli, Marie, cessant d'être agitée pour son propre compte, revint aussitôt à Bothwell, qu'elle avait été obligée d'abandonner, et qui, à cette heure, était proscrit et fugitif, tandis qu'elle, à ce qu'elle croyait, allait reprendre son titre et son rang de reine. Avec cette éternelle confiance de la femme en son propre amour, auquel elle mesure toujours l'amour d'autrui, elle pensa que la plus grande douleur de Bothwell n'était point d'avoir perdu la richesse et la puissance, mais de l'avoir perdue, elle. Elle lui écrivit donc une longue lettre où, s'oubliant elle-même, elle lui promettait, avec les expressions de l'amour le plus tendre, de ne jamais l'abandonner et de le rappeler auprès d'elle, aussitôt que la séparation des lords confédérés lui en donnerait le pouvoir. Puis, cette lettre écrite, elle appela un soldat, lui donna une bourse pleine d'or et le chargea d'aller porter cette lettre à Dunbar, où devait être Bothwell, et s'il en était déjà parti, de le suivre jusqu'à ce qu'il le rejoignît. Alors elle se coucha et s'endormit plus tranquille, car toute malheureuse qu'elle était, elle croyait qu'elle venait d'adoucir des malheurs encore plus grands que les siens. Le lendemain, la reine fut réveillée par le pas d'un homme armé qui entrait dans sa chambre. Étonnée et effrayée à la fois de cet oubli des convenances qui ne lui indiquait rien de bon, Marie se souleva sur son lit et, en écartant les rideaux, aperçut, debout devant elle, Lord Lindsay de Byre. C'était, elle le savait, un de ses plus vieux et de ses plus anciens ennemis. Aussi lui demanda-t-elle, d'une voix qu'elle essayait vainement de rendre assurée, ce qu'il voulait d'elle à une pareille heure. « Connaissez-vous cet écrit, madame ?» demanda Lord Lindsay d'une voix rude, en présentant à la reine la lettre qu'elle avait écrite pendant la nuit à Bothwell et que le soldat avait portée au Lord confédéré au lieu de la remettre à son adresse. « Oui, sans doute, my lord !» répondit la reine. « Mais suis-je donc déjà prisonnière, que ma correspondance soit interceptée? Ou bien n'est-il plus permis à une femme d'écrire à son mari ?»« Quand le mari est un traître, » répondit Lindsay, « non, madame, il n'est plus permis à une femme d'écrire à son mari, à moins cependant que cette femme ne soit de moitié dans sa trahison, ce qui me paraît, au reste, bien prouvé par la promesse que vous faites à ce misérable de le rappeler auprès de vous. » « My lord !» s'écria Marie, interrompant Lindsay. « Vous oubliez que vous parlez à votre reine !»« Il y eut une époque, madame, » répondit Lindsay, « où je vous eusse parlé d'une voix plus douce et en inclinant les genoux, quoiqu'il ne soit point dans notre nature, à nous autres vieux Écossais, de nous modeler sur vos courtisans de France. Mais depuis quelque temps, grâce à vos changements d'amour, vous nous tenez si souvent en campagne, le harnais sur le dos, que notre voix s'est enrouée à l'air glacé de la nuit, et que nos genoux raidis ne peuvent plus plier dans nos cuissards. Il faut donc que vous me preniez tel que je suis, madame, aujourd'hui que, pour le bonheur de l'Écosse, vous n'êtes plus libre de choisir vos favoris. » Marie pâlit affreusement à ce manque de respect auquel elle n'était point encore accoutumée. Mais bientôt, renfermant autant qu'il lui était possible sa colère en elle-même, « Mais encore, mylord, dit-elle, si disposée que je sois à vous prendre tel que vous êtes, faut-il au moins que je sache à quel titre vous venez près de moi. Cette lettre que vous tenez à la main me ferait penser que c'est comme espion si votre facilité à entrer dans ma chambre sans y être demandé ne me portait à croire que c'est comme geôlier. Ayez donc la bonté de me dire duquel de ces deux noms il faut que je vous appelle. » « Ni de l'un ni de l'autre, madame, car je suis tout bonnement votre compagnon de route, le chef de l'escorte qui doit vous conduire au château de Lord Leven, votre future résidence. Et encore, à peine arrivé là, serais-je obligé de vous y laisser pour venir aider les lords confédérés à choisir un régent au royaume. » « Ainsi, dit Marie, c'est comme prisonnière et non comme reine que je m'étais rendue à Lord de la Grange. Les choses étaient convenues autrement, ce me semble. » Mais je suis bien aise de voir combien de temps il faut à de nobles Écossais pour trahir les engagements qu'ils ont jurés. Votre grâce oublie que ces engagements étaient pris à une condition, reprit Lindsay. Et à laquelle ? Demanda Marie. C'est que vous vous sépariez à tout jamais du meurtrier de votre mari. Et voilà qui fait foi, ajouta-t-il en montrant la lettre, que vous avez oublié votre promesse avant que nous ne songions à révoquer la nôtre. « Et pour quelle heure est fixé mon départ ?» dit Marie que cette discussion commençait à lasser. « Pour 11 heures, madame. »« C'est bien, mylord. Comme je ne veux pas faire attendre votre seigneurie, vous allez avoir la bonté, en vous retirant, de m'envoyer quelqu'un pour m'aider à m'habiller, à moins que je n'en sois réduite à me servir seule. » Et en prononçant ces paroles, Marie fit un geste si impérieux que, quelque envie qu'eût Lindsay de lui répondre, il s'inclina et sortit. Derrière lui, Marie Seyton entra. À l'heure dite, la reine se trouva prête. Elle avait tant souffert à Édimbourg qu'elle en sortait sans aucun regret. Au reste, soit pour lui épargner les humiliations de la veille, soit pour dérober son départ à ce qui pourrait lui rester de partisan, une litière avait été préparée pour elle. Marie monta sans aucune résistance et après 2 heures de route, elle arriva à Duddington. Là, un petit bâtiment l'attendait, qui mit à la voile aussitôt qu'elle fut à bord, et le lendemain, au point du jour, elle débarquait de l'autre côté du golfe d'Édimbourg, dans le comté de Fife. Marie ne fit halte au château de Rothis que le temps qu'il lui fallait pour le déjeuner. Puis, aussitôt, elle se remit en route, car Lord Lindsay avait déclaré qu'il voulait arriver ce même soir à destination. En effet, au moment où le soleil allait se coucher, Marie aperçut, dorée de ses derniers rayons, les hautes tours du château de Lord Leven, situées sur une petite île au milieu du lac du même nom. Sans doute la royale prisonnière était déjà attendue au château de Lord Leven, car en arrivant sur les bords du lac, l'écuyer de Lord Lindsay déploya sa bannière, qui, jusque-là, était restée dans son étui, et l'agita de droite à gauche pendant que son maître sonnait d'un petit corps de chasse qu'il portait suspendu à son côté. Aussitôt, une barque se détacha de l'île et s'avança vers le cortège, mis en mouvement par 4 vigoureux rameurs qui lui eurent bientôt fait franchir l'espace qui la séparait du rivage. Marie y monta, toujours en silence, et s'assit à la poupe, tandis que Lord Lindsay et son écuyer se tenaient debout devant elle. Et comme son conducteur ne paraissait pas plus disposé à parler qu'elle n'était disposée elle-même à lui répondre, elle eut tout le temps d'examiner sa future demeure. Le château, ou plutôt la forteresse de Lord Leven, déjà passablement sombre par sa position et son architecture, empruntait encore une nouvelle tristesse de l'heure à laquelle elle apparaissait aux yeux de la reine. C'était, autant qu'elle en pouvait juger, au milieu des vapeurs qui s'élevaient du lac, une de ces massives bâtisses du XIIe siècle qui semblent, tant elles sont bien fermées, les armures de pierre d'un géant. À mesure qu'elle en approchait, Marie commençait à distinguer les contours de 2 grandes tours rondes qui flanquaient ses angles et lui donnaient le caractère sévère d'une prison d'État. Un bouquet de vieux arbres qui, enfermé par une muraille élevée, ou plutôt par un rempart, s'élevait vers sa face septentrionale et semblait une végétation de pierre, complétait l'ensemble de cette triste demeure, tandis qu'au contraire, la vue, en s'écartant d'elle et en sautant d'îles en îles, allait se perdre à l'ouest, au nord et au midi, dans la vaste plaine de Kinross, où s'arrêtait vers le sud, aux cimes dentelées de Ben Lomond, dont les dernières collines venaient mourir sur les rives du lac. Trois personnes attendaient Marie à la porte du château. C'était Lady Douglas, William Douglas, son fils, et un jeune enfant de 12 ans que l'on appelait le petit Douglas, et qui n'était ni fille ni frère des habitants du château, mais seulement un parent éloigné. Comme on le pense bien, les compliments furent courts entre Marie et ses hôtes, et la reine, conduite à son appartement, qui était situé au premier et dont les fenêtres donnaient sur le lac, fut bientôt laissée avec Marie Seyton, la seule de ses quatre maris à qui on eût permis de l'accompagner. Cependant, si rapide qu'eût été l'entrevue, et quelque courtes et mesurées que fussent les paroles échangées entre la prisonnière et ses geôliers, Marie avait eu le temps, d'après ce qu'elle en savait d'avance, de se faire une idée assez exacte des personnages nouveaux qui venaient se mêler à son histoire. Lady Loughleven, femme de Lord William Douglas, dont nous avons déjà dit quelques mots au commencement de cette histoire, était une femme de 55 à 60 ans, qui avait été assez belle dans sa jeunesse pour fixer sur elle les regards du roi Jacques V et qui en avait eu un fils, qui était ce même Muret, que nous avons déjà vu figurer si souvent dans l'histoire de Marie et qui, quoique sa naissance fût illégitime, avait toujours été traité en frère par la reine. Un instant, Lady Loughleven avait eu l'espoir, tant était grand l'amour du roi pour elle, de devenir sa femme, ce qui à tout prendre était possible, la famille de Mar, dont elle descendait, étant l'égale des plus vieilles et des plus nobles familles d'Écosse. Mais malheureusement, soit calomnie, soit médisance, quelques propos qui avaient cours parmi les jeunes seigneurs de cette époque revinrent aux oreilles de Jacques. On disait qu'en même temps que son royal amant, la belle favorite en avait un autre qu'elle avait choisi, sans doute par curiosité, dans la dernière classe du peuple. On ajoutait que ce Portefeld, ou Portefield, était le véritable père de l'enfant qui avait déjà reçu le nom de Jacques Stuart et que le roi faisait élever comme son fils au monastère de Saint-André. Ces discours, vrais ou faux, avaient donc arrêté Jacques V, au moment où, dans sa reconnaissance pour celle qui lui avait donné un fils, il était sur le point de l'élever au rang de reine, de sorte qu'au lieu de l'épouser lui-même, il avait invité à faire un choix parmi les seigneurs de la cour. Et comme elle était fort belle et que la faveur du roi accompagnait le mariage, ce choix, qui tomba sur Lord William Douglas de Loughleven, n'éprouva de la part de celui-ci aucune résistance. Cependant, malgré cette protection directe que Jacques V lui avait conservée toute sa vie, Lady Douglas n'avait jamais pu oublier qu'elle avait touché du doigt à une plus haute fortune. Aussi avait-elle pris en haine celle qui, selon elle, avait usurpé sa place, et la pauvre Marie avait naturellement hérité de l'animosité profonde que Lady Douglas portait à sa mère, et qui s'était déjà fait jour dans les quelques paroles que les deux femmes avaient échangées entre elles. Au reste, en vieillissant, soit repentir de ses fautes, soit hypocrisie, Lady Douglas s'était faite prude et puritaine, de sorte qu'elle joignait, à cette heure, à l'âcreté naturelle de son caractère, toute la raideur de la religion nouvelle qu'elle avait adoptée. William Douglas, qui était le fils aîné du Lord Loughleven et qui se trouvait par sa mère le demi-frère de Muret, était un homme de 35 à 36 ans, à la force athlétique, aux traits durs et fortement prononcés, roux comme toute la branche cadette et qui avait hérité de cette haine paternelle que, depuis un siècle, les Douglas nourrissaient contre les Stuarts et qui s'était manifesté par tant de complots, de révoltes et d'assassinats. Selon que la fortune avait favorisé ou abandonné Muret, William Douglas avait vu les rayons de l'astre fraternel se rapprocher ou s'éloigner de lui. Il avait alors senti qu'il vivait d'une vie étrangère et s'était dévoué corps et âme à celui qui était son principe de grandeur ou sa cause d'abaissement. La chute de Marie, qui nécessairement devait élever Muret, était donc pour lui un sujet de joie, et les lords confédérés ne pouvaient mieux choisir qu'en confiant la garde de leur prisonnière à la rancune instinctive de Lady Douglas et à la haine intelligente de son fils. Quant au petit Douglas, c'était, comme nous l'avons dit, un enfant de 12 ans, orphelin depuis quelques mois, que les Loughleven avaient pris auprès d'eux et auquel, par toutes sortes de duretés, ils faisaient acheter le pain qu'ils lui donnaient. Il en était résulté que l'enfant, fier et haineux comme un Douglas, et sachant, quoique sa fortune fût inférieure, que sa naissance était égale à celle de ses orgueilleux parents, avait changé peu à peu sa reconnaissance primitive en une haine durable et profonde. Car on avait l'habitude de dire qu'il y avait chez les Douglas un âge pour l'amour, mais qu'il n'y en avait pas pour la haine. Il en résulte que, sentant sa faiblesse et son isolement, l'enfant s'était renfermé en lui-même avec une puissance au-dessus de son âge et, humble et soumise en apparence, n'attendait que le moment où, devenu jeune homme, il pourrait s'éloigner de Lochleven et peut-être même se venger de la protection orgueilleuse de ceux qui l'habitaient. Cependant, les sentiments que nous venons d'exprimer ne s'étendaient pas à tous les membres de la famille, et autant au fond du cœur le petit Douglas haïssait Williams et sa mère, autant il aimait George, le second des fils de Lady Lochleven, dont nous n'avons point encore parlé, parce qu'étant absent du château au moment où la reine y arriva, nous n'avons point trouvé occasion de le présenter encore à notre lecteur. George, qui pouvait avoir à cette époque 25 ou 26 ans à peu près, était le second fils du Lord Lochleven. Mais par un hasard singulier que la jeunesse aventureuse de sa mère avait fait mal interpréter à Sir Williams, ce second fils ne présentait aucun des traits distinctifs des Douglas, qui étaient d'avoir les joues larges et hautes en couleur, les oreilles grandes et les cheveux roux. Il en était résulté que le pauvre George, qui, au contraire de cela, avait reçu de la nature des joues pâles, des yeux bleu foncé et des cheveux noirs, avait été, dès son arrivée en ce monde, l'objet de l'indifférence de son père et de la haine de son frère aîné. Quant à sa mère, soit qu'effectivement elle s'étonnât de bonne foi, comme Lord Douglas, de cette différence dans la race, soit qu'elle en connût la cause et se la reprochât intérieurement, George n'avait jamais été, ostensiblement du moins, l'objet d'un amour maternel bien vif de sa part. Il en était résulté que le jeune homme, poursuivi dès sa jeunesse par une fatalité qui ne s'expliquait pas, avait poussé comme un arbuste sauvage, plein de sève et de force, mais inculte et isolé. Aussi, dès l'âge de 15 ans, s'était-on habitué à ses absences sans cause que l'indifférence que chacun lui portait rendait au reste parfaitement explicable. De temps en temps seulement, on le voyait reparaître au château, pareil à ces oiseaux voyageurs qui reviennent toujours au même endroit, mais ne s'y reposent qu'un instant, puis repartent sans qu'on sache vers quel point du monde ils dirigent leur vol. Un instinct de malheur pareil avait réuni le petit Douglas à George. George, en voyant l'enfant maltraité par tous, s'était pris d'amitié pour lui, et le petit Douglas, en se sentant aimé au milieu de cette atmosphère d'indifférence qui l'entourait, s'était tourné les bras et le cœur ouverts du côté de George. Il était résulté de cette affection mutuelle qu'un jour que l'enfant avait commis je ne sais quelle faute et que William Douglas levait pour le frapper le fouet avec lequel il battait ses chiens, George, qui était assis triste et pensif sur une pierre, s'était élancé aussitôt, avait arraché le fouet des mains de son frère et l'avait jeté loin de lui. À cette insulte, Williams avait tiré son épée et George la sienne, de sorte que ses deux frères, qui depuis 20 ans se haïssaient comme deux ennemis, allaient s'égorger, lorsque le petit Douglas, qui avait ramassé le fouet, revenant se mettre à genoux devant Williams, lui avait présenté l'arme infamante en lui disant « Frappe, cousin, je l'ai mérité !» Cette action de l'enfant avait donné quelques minutes de réflexion aux deux jeunes hommes qui, effrayés du crime qu'ils allaient commettre, avaient remis leur épée au fourreau et s'étaient éloignés en silence et chacun de son côté. Depuis cette aventure, l'amitié de George et du petit Douglas avait pris une nouvelle force et, de la part de l'enfant, elle était devenue une vénération. Nous nous appesantissons sur tous ces détails un peu longuement peut-être, mais nos lecteurs nous les pardonneront sans doute lorsqu'ils verront de quelle utilité ils sont pour l'avenir. Voilà au milieu de quelle famille, moins George, qui, comme nous l'avons dit, était absent au moment de son arrivée, la reine était tombée, passant en un instant du faîte de la puissance à l'état de prisonnière, car dès le lendemain de son arrivée, Marie avait pu voir que c'était à ce titre qu'elle était commensale du château de Lochleven. En effet, Lady Douglas s'était présentée devant elle dès le matin et avait, avec un embarras et une haine mal déguisées, sous les apparences d'une indifférence respectueuse, invité Marie à la suivre pour prendre connaissance des différentes parties de la forteresse qui avaient été désignées d'avance pour son usage particulier. Alors elle lui avait fait traverser trois chambres, dont l'une était destinée à lui servir de chambre à coucher, la seconde de salon et la troisième d'antichambre. Puis, descendant la première un escalier en spirale qui donnait dans la grande salle du château sa seule issue, elle avait traversé cette salle et avait conduit Marie dans le jardin dont la reine avait vu à son arrivée les arbres dépasser les hautes murailles. C'était un petit carré de terrain formant un parterre au milieu duquel s'élevait une fontaine artificielle. On y entrait par une porte fort basse qui se répétait sur le mur opposé. Cette seconde porte donnait sur le lac et, comme toutes les portes du château, dont les clés cependant ne quittaient jamais le ceinturon ou le chevet de William Douglas, elle était gardée jour et nuit par une sentinelle. C'était là tout le domaine de celle qui avait eu à elle les palais, les plaines et les montagnes de tout un royaume. Marie, en rentrant dans sa chambre, trouva le déjeuner préparé et William Douglas debout près de la table. Il venait remplir près de la reine les fonctions d'écuyer tranchant et de dégustateur. Malgré leur haine pour Marie, les Douglas auraient regardé comme une tâche éternelle à leur honneur qu'il arrivât quelque accident à la prisonnière tout le temps qu'elle habiterait leur château. Or, c'était pour que la reine elle-même ne conçût aucune crainte à cet égard que William Douglas, en sa qualité de châtelain, avait non seulement voulu tailler devant la reine, mais même déguster en sa présence et avant elle tous les mets qui lui devaient être apportés. Cette précaution attrista plus Marie qu'elle ne la rassura, car elle comprit que, pendant le temps qu'elle serait au château, cette étiquette ôterait toute intimité à sa table. Cependant, la chose venait d'une intention trop noble pour qu'elle pût en faire un crime à ses hôtes. Elle se résigna donc à cette compagnie, quelque insupportable qu'elle lui fût. Seulement, à compter de ce jour, elle abrégea tellement ses repas qu'à peine, pendant tout le temps qu'elle fut à Lochleven, ses dîners les plus longs durèrent-ils un quart d'heure. Le surlendemain de son arrivée, Marie, en se mettant à table pour le déjeuner, trouva sur son assiette une lettre à son adresse qui avait été déposée par William Douglas. Marie reconnut l'écriture de Murray et son premier sentiment fut tout à la joie. Car s'il lui restait un rayon d'espoir, il lui venait du côté de son frère, pour lequel elle avait toujours été parfaitement bonne, que de prière de Saint-André, elle avait fait compte en lui donnant les magnifiques terres qui faisaient partie de l'ancien comté de Murray, et auquel, depuis, ce qui était bien plus encore, elle avait pardonné, ou feint de pardonner, la part qu'il avait prise dans l'assassinat de Rizzio. Son étonnement fut donc grand lorsque, ayant ouvert la lettre, elle y trouva des reproches amers contre sa conduite, une exhortation à faire pénitence et une assurance plusieurs fois réitérée de ne jamais sortir de sa prison. Il terminait sa lettre en annonçant que, malgré le dégoût qu'il avait pour les affaires publiques, il avait été forcé d'accepter la régence, ce qu'il avait fait moins encore pour sa patrie que pour sa sœur, attendu que c'était le seul moyen qu'il eût de s'opposer au procès infamant que les nobles voulaient lui faire comme auteur ou du moins comme principal complice de la mort de Darnley. C'était donc à l'entendre un grand bonheur pour elle que cette captivité, et elle devait en remercier le ciel comme d'un adoucissement au sort qu'il eût attendu s'il n'eût point intercédé pour elle. Cette lettre fut un coup de foudre pour Marie. Seulement, comme elle ne voulait pas donner à ses ennemis la joie de la voir souffrir, elle renferma sa douleur en elle-même et se retournant vers William Douglas. « My Lord, lui dit-elle, cette lettre contient des nouvelles que vous savez sans doute déjà, car, quoique nous ne soyons pas enfants de la même mère, celui qui m'écrit est notre parent à un égal degré et n'aura pas voulu écrire à sa sœur sans écrire en même temps à son frère. » D'ailleurs, en bon fils, il aura désiré faire part à sa mère des grandeurs inattendues qui lui arrivent. Oui, madame, répondit Williams, nous savons depuis hier que, pour le bonheur de l'Écosse, mon frère a été nommé régent du royaume. Et comme c'est un fils aussi respectueux pour sa mère que dévoué à sa patrie, nous espérons qu'il réparera le mal que, depuis 5 ans, les favoris de tout genre et de toute espèce ont fait à toutes deux. C'est d'un bon fils et en même temps de notre courtois que de ne pas remonter plus haut dans l'histoire de l'Écosse, répondit Marie Stuart, et de ne pas faire rougir la fille des fautes du père, car j'ai entendu dire que le mal dont se plaint votre seigneurie était antérieur à l'époque où vous le fixez, et que le roi Jacques V avait eu aussi autrefois des favoris et même des favorites. Il est vrai que l'on ajoute que les uns ont aussi mal reconnu son amitié que les autres son amour. C'est si vous l'ignorez, mylord, ce dont pourrait vous instruire, au cas où il vivrait encore, un certain Portefeuille ou Portefil, je ne sais lequel, m'entendant mal à retenir et à prononcer ces noms de gens du peuple, mais sur lequel, à mon défaut, votre noble mère pourrait vous donner des renseignements. » À ces mots, Mary Stuart se leva et, laissant William Douglas rouge de colère, rentra dans sa chambre à coucher et verrouilla la porte derrière elle. De toute cette journée, Mary ne descendit point et demeura devant sa fenêtre, d'où elle jouissait au moins d'une magnifique vue qui s'étendait sur les plaines et le village de Kinross. Mais cette vaste étendue ne faisait que lui resserrer encore le cœur lorsque, ramenant ses regards de l'horizon au pied du château, elle voyait les murailles entourées de tous côtés par les eaux profondes du lac, sur la vaste surface duquel se balançait comme un point une seule barque où le petit Douglas était occupé à pêcher. Depuis quelques instants, les yeux de Mary s'étaient arrêtés machinalement sur cet enfant qu'elle avait déjà aperçu à son arrivée, lorsque tout à coup le bruit d'un corps retentit du côté de Kinross. Au même instant, le petit Douglas jeta sa ligne et se mit à ramer du côté par où était venu le signal, avec une adresse et une force au-dessus de son âge. Mary, qui, sans motif, avait arrêté son regard sur lui, continua de le suivre des yeux et le vit se diriger vers un point du rivage si éloigné que la barque ne lui sembla plus qu'un point imperceptible. Mais bientôt elle reparut, grandissant à mesure qu'elle s'approchait, et Mary, alors, put remarquer qu'elle ramenait vers le château un nouveau passager qui, ayant pris à son tour les rames, faisait voler la petite barque sur l'eau tranquille du lac où elle laissait un sillon étincelant aux derniers rayons de soleil. Bientôt, emportée avec la vitesse d'un oiseau, elle fut assez proche pour que Mary pût remarquer que l'adroit et vigoureux rameur était un jeune homme de 25 à 26 ans, aux longs cheveux noirs, vêtu d'un juste corps de drap vert et portant sur la tête une toque de montagnard ornée d'une plume d'aigle. Puis, comme il approchait en tournant le dos à la fenêtre, le petit Douglas, qui était appuyé sur son épaule, lui dit quelques mots qui le firent se retourner du côté de la reine. Aussitôt, Mary, par un mouvement instinctif, encore plus que par la crainte d'être l'objet d'une vaine curiosité, se rejeta en arrière, mais point si vite cependant qu'elle n'eût pu voir la belle et pâle figure de l'inconnu, qui, lorsqu'elle se remit à sa fenêtre, avait disparu derrière un des angles du château.